Vous savez que Victor Hugo, ce qu'il a dit, ah, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. J'ai pensé souvent, on m'a appris ça à l'école primaire.
Messieurs, le décor va changer. Fini les taudis, les mansardes, où la Camarde avait son nid. Nous voulons que le soleil regarde le berceau de nos chers petits. Le bonheur nous rendra visite, messieurs, le décor va changer.
Prenez un gars de chez Renault ou d'une autre usine, n'importe. Pour la première fois, il avait du congé payé. On voyait les gens qui s'en allaient à tout. Il y en avait qui avaient des petites bagnoles, de bicyclettes avec des triporteurs joyeux, enfiévrés. Et ils voyaient la mer, ils voyaient tout hein, pour la première fois. C'était quelque chose d'incompréhensible. Faut l'avoir vu. Faut l'avoir vu monter.
Mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons verser. L'air pur est bon pour la santé.
La vraie vie, c'est d'avoir un peu de temps, de congé, de tout, avant qu'on était un peu en servage. Le Front populaire a donné un essor à la vie.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis. Le bonheur nous rendra visite. La vie est à nous, le Front populaire, 1936.
Ça nous semblait au fond assez simple et assez normal tout ce qu'on vivait, tu sais.
Le Front populaire ?
Toute cette effervescence. Oui, ça nous semblait normal. Ça nous tombait comme ça. Ça remplissait nos vies. Et on ne manquait aucune manifestation. Et il y a des manifestations, il y en avait beaucoup. Et il y avait, on n'en parle plus maintenant, le mur des fédérés. Et alors on y allait avec beaucoup de recueillement. Et il y avait un groupe de chants, je ne me souviens plus comment s'appelait ce groupe, qui était pourtant très 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 connu, qui dès l'entrée dans le cimetière chantait des chants révolutionnaires qu'on reprenait avec eux. Puis on se taisait en passant devant le mur des fédérés. Bon, c'était... Mais on s'y donnait à plein, à tout ça, bon. Oui, à plein.
Une courte embellie, c'est vrai. Une brève embellie, le Front populaire, c'est vrai. Mais restera très très longtemps cet instant de l'histoire, ce mai, ce juin 1936, où le peuple a débordé. Le peuple a débordé ceux qu'il avait élus, ses partis, ses syndicats, pour occuper joyeusement les usines et faire la grève pour obtenir quoi donc ? Eh bien ce dont nous profitons ce jour même, c'est-à-dire les premiers congés payés, c'est-à-dire la semaine de 40 heures et toute une série d'avantages, de conquis sociaux qui allaient être repris mais revenir ensuite après la Deuxième Guerre mondiale et devenir presque l'identité du pays. Il y a quelque chose de très profond, de très fort qui s'est passé là et qui a débordé les contours de cette embellie de 1936. 1936, c'est les images, c'est la balade au bord de l'eau, c'est les casquettes, c'est les accroche-cœurs, c'est les tandems, c'est avec les 15% d'augmentation, s'acheter une tente pour aller au bord de la mer, pour aller voir la mer. Des centaines de milliers de Français cet été-là ont vu la mer pour la première fois. Et quand on va au bord de la mer, eh ben, on se déshabille. Ah oui, on se déshabille. Et c'était la première fois pour beaucoup qu'il voyait des corps. Oui, jusque-là, le corps des travailleurs, c'était des muscles dévolus au travail. Et voilà que soudain, eh ben, ces corps étaient dévolus au plaisir, à nager, courir, se regarder. Le corps a changé. En 1936, vous y pensez à ça ? Jusque-là, le bord de la mer, c'était la bourgeoisie, c'était les nantis, c'était les gros qui en profitaient. Et ça a été tout le monde. Tout le monde, oui, tout le monde. Ça a donné les congés payés, ça a donné l'industrie du tourisme, des premières activités au monde. Mais c'était inconcevable. Quelques mois avant, comment ça ? Des patrons qui allaient payer des gens à rien faire. Mais enfin, c'était. Alors, il y avait des petits essais qui avaient été faits. Ça n'a pas tout à fait été inventé là. Mais enfin, c'est là que ça a pris toute sa force. Et en cet été 1936, en ce printemps 1936, la France a donné le modèle. Aucun pays au monde n'avait les 40 heures. Aucun pays au monde n'avait les congés payés. Eh bien, par la suite, beaucoup de pays ont copié ce que le Front populaire, ce que ce peuple débordant avait suggéré et inventé. Aujourd'hui, 3 milliards 500 millions d'êtres humains sur cette planète ont des congés payés. La plupart des pays limitent le temps de travail à 40 heures. C'est pas mal quand même de penser que cette courte embellie de ce qui, dans les mémoires et dans les livres d'histoire, est considéré comme une belle parenthèse, une belle parenthèse refermée, a eu autant d'écho, autant de portée jusqu'à aujourd'hui. La vie est à nous, Front populaire, 1936.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot ?
C'est beaucoup trop.
Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas.
Ah.
Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas.
Ah, ah. Bon. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Alors, voulez-vous être commandeurs tous de la Légion d'honneur ?
C'est pas assez.
Comment ? Enfin, songez au revers de la médaille. Car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille. Oh !
Soit nous l'avouons bien haut, vous travaillez du chapeau.
Ah, pas le semble, c'en est trop.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu aux places de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés.
Pâté actualité.
Ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie.
6 février 1934.
Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Alors, Daniel Tartakovsky, on va essayer de reprendre les choses chronologiquement. Cette manif de février 34 sera suivie par un événement important et fondateur du Front populaire. C'est le 14 juillet 1934.
1935, où là, l'alliance se fait, le front se constitue.
Alors, le front s'est constitué dès avant, puisque en juillet 34, les deux partis, communistes et socialistes, ont signé un pacte d'unité d'action antifasciste. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe cette logique, qui est une logique antifasciste, à une logique de construction d'une réponse originale contre le fascisme et contre la crise. Et là, effectivement, la mobilisation du 14 juillet 35 va jouer un rôle décisif. D'abord parce que les radicaux vont être partie prenante de cette manifestation qui est initiée par la Ligue des droits de l'homme. Il s'agit, dans un premier temps, de mobiliser une nouvelle fois contre des exactions des ligues qui ont relevé la tête au début juillet 1935. Nous sommes un 14 juillet. Il faut rappeler que dans les années 20, les organisations ouvrières ne célèbrent pas le 14 juillet. Pourquoi ? Bien parce que le 14 juillet est devenu une fête nationaliste depuis qu'en 1919, elle a été le moment de la célébration de la victoire. Et donc, comme disait le regretté Georges Brassens, le 14 juillet, les organisations ouvrières évitent d'écouter le clairon qui passe et elles organisent des fêtes champêtres. Enfin, elles s'éloignent du centre de la ville. Pourquoi le 14 juillet ? Parce que on veut que des délégués de province montent à Paris et c'est un pont. Donc on ne se saisit initialement pas de cette date pour le symbole qui est le sien, mais parce qu'elle crée une opportunité dans le calendrier. Et puis il y a un phénomène qui s'opère d'osmose. Brusquement, on prend conscience que c'est aussi un 14 juillet et que peut-être le temps est-il venu de se réapproprier une histoire dont on a été dépossédé. Et donc ça va être le moment d'une intense réappropriation de l'histoire de la Révolution française par les organisations ouvrières. Et cette manifestation est construite. Elle est construite avec la décision prise au plus haut niveau par les organisations qui sont initiatrices. Il y a un comité d'organisation de la manifestation qui se met en place, où toutes les organisations constitutives, syndicales, associatives et politiques sont présentes. Décision est prise, ça, c'est un lieu commun aujourd'hui, de défiler sous les plis mêlés du drapeau rouge et du drapeau tricolore, et aux accents mêlés de l'Internationale et de la Marseillaise. On est dans nos lieux communs actuels. Mais c'est une révolution en 1935. Et d'ailleurs, quand on est dans les archives et qu'on voit comment certains militants, je pense à des lettres de militants socialistes dans le Nord, qui disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, on ne va pas chanter la Marseillaise. Il y a le sentiment... Donc il y a une espèce de... C'est une révolution, c'est une révolution parce que qu'est-ce que ça veut dire défiler ? On n'est pas simplement dans une construction qui serait une construction d'image médiatique. On est dans quelque chose de très fort. C'est le moment où, dans cette manifestation, à la faveur de cette décision qui est prise, et donc globalement les militants vont s'approprier, à Paris comme en province, je dirais que de cette manifestation naît une osmose entre deux cultures. Jusqu'alors, la gauche, en France, se définissait par les liens qu'elle entretenait avec la République. La gauche, c'était d'abord ceux qui avaient construit la République. Le Parti communiste et les syndicats, la CGT naissante de 1905, ne se considéraient pas à gauche, ils se considéraient comme de classe. Dans les résultats électoraux, les préfets les classaient à l'extrême gauche, puisqu'ils ne se considéraient pas non plus à l'extrême gauche, ils s'inscrivaient dans une autre logique. Il me semble que cette manifestation du 14 juillet 1935 est un moment fondateur de notre histoire, où la gauche change de nature, et où la gauche va désormais et durablement se définir par la double relation qu'elle entretient avec la culture républicaine et la culture de classe.
Mais cette journée-là, vous dites, l'unité se fait contre le fascisme et contre la crise. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'on a un programme ? Est-ce qu'on a un horizon ?
Justement, au lendemain de cette journée où s'est opérée cette transformation essentielle de la gauche, les organisations qui ont défilé ensemble décident de se retrouver le lendemain et les jours qui suivent et vont élaborer ensemble ce qui devient le programme du Rassemblement populaire, puisque c'est son nom, on dit Front populaire, mais il s'appelle le Rassemblement populaire. Programme pour le pain, la paix, la liberté.
Bon, ça c'est un peu flou, c'est beau, mais c'est flou.
Non, c'est pas flou, et c'est beau bien sûr, mais c'est pas flou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Liberté, bon, c'est la réaffirmation de ce qui s'opère dans le pays depuis le 12 février 1934, c'est-à-dire continuer à se battre contre le fascisme intérieur et extérieur qui menace. Paix, dès lors que ça n'est plus le capitalisme qui porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, mais c'est le fascisme, indéniablement. Et pain, ça veut dire que cette lutte qui a été engagée le 12 février 1934 contre le fascisme, dès lors qu'elle a donné confiance aux hommes et aux femmes qui s'étaient mobilisés, elle les amène à partir de là, mais à partir de là seulement, à s'engager dans une riposte qui devient une riposte de masse contre la crise et ses effets. Donc ça n'est pas flou du tout. C'est précisément une articulation nouvelle qui s'opère entre une mobilisation antifasciste et une mobilisation anti-crise. Et le programme de Front Populaire se caractérise par sa volonté d'articuler ces deux aspirations.
Place de la Bastille, des associations appartenant au Rassemblement Populaire se réunissent.
Pâté Actualité, 14 juillet 1935.
Tandis que deux immenses cortèges sont formés, l'un rue de Rivoli, l'autre boulevard Beaumarchais. Par des itinéraires différents, ils se dirigent vers la place de la Nation. Cette manifestation populaire, dont aucun incident n'a troublé le calme, se termine par le serment renouvelé du Rassemblement Populaire pour le pain, la paix, la liberté. Édouard Daladier, Maurice Torres, Roger Salingro, Maurice Violette, Pierre Caux. Et Léon Jouot ont pris place dans la tribune d'honneur.
Ce qui est intéressant dans l'expression Front Populaire, c'est le mot populaire. C'est-à-dire que c'est le peuple, à vous entendre, qui, ce 14 juillet 1935, est là, participe, est présent, se voit comme un sujet politique à part entière.
Absolument. C'est une nouvelle image du peuple qui se construit par et dans les rues, d'ailleurs. D'abord, Et c'est pas par hasard si des images qui nous sont restées, des images fortes qui nous disent à l'évidence Front Populaire sans qu'on ait besoin de légende aujourd'hui, ce sont d'une part ces manifestations d'hommes, de femmes et d'enfants dans la rue, dans les rues, et puis les images des congés payés. Oui, donc c'est la construction d'un peuple. Pourquoi un peuple ? Eh bien parce que c'est évidemment les organisations ouvrières, mais l'originalité du Front Populaire, c'est l'alliance étroite qui se noue entre le monde ouvrier et les classes moyennes, des classes moyennes qui ne sont pas nos classes moyennes d'aujourd'hui, qui ne sont pas nos classes moyennes salariées d'aujourd'hui, qui sont ce que Gambetta appelait en d'autres temps les nouvelles couches, ce monde de petits qui sont la base de masse du Parti radical. Et c'est en ça que se construit ou que se reconstruit un peuple d'un type nouveau en part et dans les luttes de 1936.
Ça remplissait nos vies, on ne manquait aucune manifestation.
Alors il y a nos voix d'aujourd'hui, il y a la voix de l'historienne, et puis il y a la voix des protagonistes, il y a la voix de ceux qui ont vécu et qui ont fait ce Front Populaire. Voici Simone qui, en 1996, avait 84 ans et qui se souvient.
Au moment de l'organisation du Front Populaire, on a occupé les usines. Ils ne sortaient plus, les gars.
Mais pendant ce temps-là, ils avaient un foyer. Il y avait les femmes, les gosses. Alors, nous, les femmes, organisées dans une contre la guerre et la misère, ça s'appelait. Contre la guerre et la misère, parce qu'il y avait de la misère, on crevait de faim, on n'avait pas de sous, il y avait du chômage, on savait ce que c'était. Et alors, moi, ils m'ont nommé responsable, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient organisés pour aller trouver les familles.
Et vous, vous faisiez le tour des usines?
Voilà, je m'occupais de tout. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est qu'on avait cet esprit de solidarité qu'on n'a plus maintenant. Et alors, même, il y a eu aussi la grève des mineurs, où on a pris des enfants de mineurs. Fallait les, eux, les mineurs, c'était dans le Nord. Ils ont organisé leur truc, mais alors, eux, ils n'avaient rien, les pauvres. Alors, comme c'est les mineurs, ils ont eu toujours beaucoup d'enfants. Alors, ils crevaient de faim, puis ils étaient malades. Il y en avait qui étaient malades par la mine. Alors, il y a eu un comité de formés pour les familles qui pouvaient prendre un ou deux gosses de mineurs.
Moi, chez eux.
Chez eux. Naturellement, on en a pris.
Vous avez pris combien d'enfants de mineurs chez vous?
J'ai eu deux gars. Alors, je leur donnais le goûter avec une petite mallette qu'ils emmenaient pour goûter le soir, parce qu'ils les gardaient jusqu'à 6 heures du soir en étude.
Bon. Mais ils sont restés longtemps?
Ah oui, oh, ben, ça a duré la grève des mineurs. Oh là là, 45 jours de grève des mineurs. Et puis alors, quand il y avait du sport, la municipalité s'occupait de leur donner des vêtements de sport. Non, on n'en avait pas à leur donner. Alors, moi, ce que je pouvais avoir de mes garçons, je leur donnais. Alors, ils étaient contents parce qu'ils avaient des vêtements de français, s'ils appelaient. Oui, ils étaient pourtant français, les mineurs, les gosses.
Alors, pourquoi ils disaient ça?
Ben, parce qu'ils n'avaient jamais eu de vêtements comme ça. Ils avaient eu des vêtements rapiécés. Ça, c'est... Alors, la misère... Vous savez, on parle de misère maintenant, mais si vous saviez la misère qu'il y a eu, on n'avait pas l'eau, vous voyez? Alors, c'était la misère. Moi, j'ai vu retourner un vêtement à moi, un manteau qui était râpé devant. J'en ai refait un manteau à ma fille. Mais ça, fallait que je le fasse la nuit. Moi, j'ai vu les gosses, moi, j'avais pas de quoi... Quand c'était Noël, j'avais pas de quoi leur payer des jouets. Eh bien, c'était des boîtes à chaussures qu'on avait, qui mettaient avec des ficelles et puis qui faisaient la locomotive. C'était le couvercle de la boîte qui mettait en haut, puis le restant, c'était les wagons, avec des boîtes à chaussures. Eh bien, ils jouaient avec ça. Ben maintenant, va donc donner ça à un gosse, il dira tout fou de moi.
Dites-moi, Simone, en 1936, qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Comme travail? Ah, ben ça... Ça, alors, pas un drôle de travail. Eh ben, je lavais le linge pour les gens dehors.
De qui?
Ben, des commerçants qui avaient des terrains. Bon, il y avait des commerçants du marché, mais ils avaient de la place dans leur terrain. Puis je lavais ça. Il faisait froid, il y a des fois. Oh. Mais, alors, comme ils faisaient les marchés, ils avaient des légumes. Et comme ils ramassaient des fois les légumes qui... Bon. Qu'ils foutaient des fois à la boîte à ordures, ben je leur disais non, les jetez pas, donnez-nous, on va les éplucher, nous. Vous voyez, il fallait essayer de se débrouiller. C'est pour vous dire la misère qu'on avait.
Et pour vous chauffer, comment vous faisiez?
Ah ben, le chauffage, ben, on avait droit à un ticket de charbon. Il y avait des tickets quand même déjà là aussi. Alors on allait chercher le charbon. Ça. Il fallait aller les chercher parce qu'on ne livrait pas. Il y en a qui le livraient, mais il fallait leur donner la pièce parce que c'était pas pour rien, comme on n'avait déjà pas de sous. Voilà, ça c'était la misère.
Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde. Dans la vitrine de chez Potin, il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîte protégée par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
À l'Élysée, M. Albert Sarraut, accompagné de ses collaborateurs, vient remettre au président de la République la démission du cabinet.
Pâté Actualité, 4 mai 1936.
Quelques instants plus tard, M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres.
Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève.
Léon Blum.
Le gouvernement fait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
Daniel Tartakovsky, arrivons maintenant sur ce mai 1936, ce 4 mai 1936, où... le résultat des élections législatives, c'était des élections législatives, donne la majorité à la coalition de gauche avec, à sa tête, Léon Blum.
Oui, alors, deux surprises dans ces élections, pour les contemporains, bien sûr. La première surprise, c'est que, pour la première fois, le Parti socialiste l'emporte en voix, c'était déjà le cas, mais en siège, et ça c'est la première fois, sur le Parti radical, et que de ce fait, le Parti socialiste premier, il revient au Parti socialiste premier parti au sein de l'Alliance de Front Populaire de former le gouvernement, Léon Blum. Ça, c'est le premier élément auquel les acteurs ne s'attendaient pas nécessairement. La deuxième, ça n'est pas une surprise, mais enfin, le deuxième élément tout à fait neuf, c'est le poids nouveau du Parti communiste, qui est certes le troisième parti en nombre, mais qui est la formation qui bénéficie le plus en termes de progression de cette alliance, puisqu'il va passer de 12 députés à 72 députés et qu'il s'impose pour une force politique majeure au sein de l'alliance.
Est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec aujourd'hui, avec un front de gauche, un parti socialiste et des radicaux socialistes qui pourraient être le MoDem? Non, ça ne marche pas.
Oui. Alors ça ne marche pas pour des quantités de raisons. D'abord parce que nous le savons tous, l'histoire ne se répète pas. Mais ça ne marche pas parce
L'histoire ne repasse pas les plats. Oui.
Et puis je pense surtout qu'il faut bien voir comment finalement ces trois composantes du Front Populaire, dans des formes très différentes, entretiennent des relations fortes avec ce que nous appelons le mouvement social. C'est à définir aussi. Donc je crois que le lien entre la société et ses partis, et notamment à gauche, n'est pas le même dans les années 30 et aujourd'hui.
Donc, élection de ce Front Populaire, à quoi ressemble la rue, à quoi ressemble le pays ces jours-là?
La rue s'est calmée. Enfin, ce n'est pas le mot qui convient. On parle souvent du 1er mai 36. Là encore, on est dans une très belle reconstruction. Certes, il y a eu des grèves le 1er mai 36, comme tous les 1er mai, rappelons qu'il n'était pas férié à l'époque. Donc, non, il ne se passe rien ce jour-là dans les rues. Là où la rue reprend ses droits, et sans doute cela contribue à expliquer la suite, c'est à la fin mai, donc les élections ont eu lieu, le gouvernement n'est pas encore investi, et il y a la traditionnelle manifestation au Père-Lachaise, en mémoire de la Commune. Nous sommes le 23 mai. C'est une énorme manifestation. Les organisateurs parlent de 500 000 manifestants. Mmh. Nous n'allons pas revenir sur combien étaient-ils, selon la préfecture et selon les organisateurs. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ces circonstances comme en d'autres, ce n'est pas le nombre, ça n'a aucune importance, c'est de voir comment, dans certaines circonstances, les organisateurs osent, parce qu'ils peuvent oser, un chiffre qu'ils n'ont jamais avancé. Et c'est la première fois qu'ils avancent 500 000. C'est une manifestation énorme. Léon Blum, déjà désigné, mais pas encore investi comme président du Conseil, est présent devant le mur des fédérés. Les manifestants défilent en criant Blum de l'énergie. Et là, oui, on voit bien non seulement le lien qui persiste entre la mobilisation collective et ce gouvernement qui va se mettre au travail, et puis également cette inscription dans l'histoire qui est importante au moment du Front Populaire.
Gaumont Actualité, 1er mai 1936.
À Paris et dans la région parisienne.
Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades?
Oui!
Pour les revendications, hippipip!
Oui!
Hippipip!
Oui!
Dans le Nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit.
Alors, ce qui va se passer, Daniel Tartakovsky, ce qui va se passer là, c'est que sans que le gouvernement l'ait prévu ni voulu, les ouvriers, les salariés vont occuper leurs usines, se mettre en grève partout à travers le pays et vont déborder ces fameux élans qu'on appellera l'embellie de ce printemps 1936 qui va aboutir ensuite à ce qu'on sait, les congés payés, toute une série, aux accords Matignon et toute une série de conquêtes sociales. Parlez-nous plus précisément de cette période où, ce qui est dans la mémoire, c'est le peuple déborde.
Oui, alors c'est là que l'histoire se montre toujours plus inventive que l'on ne l'imaginait. Il faut repartir du 1er mai. Je le disais il y a un instant, le 1er mai n'est pas férié, et donc ce 1er mai-là, comme tous les 1er mai, les militants syndicalistes dans des usines se sont mis en grève et comme tous les 1er mai, ils ont été renvoyés. D'habitude, il ne se passe rien. Et puis, parce que les élections ont eu lieu et parce que le climat a déjà changé, parce que le contexte a déjà changé, dans un certain nombre d'usines de l'aéronautique en province, les militants se mettent en grève et occupent leurs usines pour demander la réintégration des militants qui viennent d'être révoqués. Il y a bien une continuité des mouvements. Et dans les quelques jours qui suivent, on est dans des municipalités radicales, au sens de radical socialiste. Les maires se livrent à un arbitrage et les militants sont réintégrés. Et l'humanité rend compte de ces grèves et de réintégration de militants. Et le fait que cette foule rassemblée prenne conscience dans ce climat de force, de victoire qui vient d'être remportée, n'est peut-être pas, là encore, sans créer un ferment qui fait que, sans que le mot d'ordre soit venu de rien ni de personne, des militants vont se mettre en grève et occuper leurs usines. Alors, la géographie des grèves est intéressante.
Mais encore une fois, Daniel, sans syndicat, sans parti, sans encadrement.
Ni en 36, ni en 38, la grève générale n'est née d'un appel à la grève générale. Dans ces deux circonstances, un mouvement surgit. On va revenir sur les conditions du surgissement. Ça n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Et la grève ayant démarré, dans les deux circonstances, les organisations syndicales, qui n'étaient pas les mêmes en 36 et en 68, organisent le mouvement et le portent. Mais revenons sur l'émergence. Les grèves n'ont pas démarré n'importe où. Elles ont démarré dans de grandes entreprises de pointe, l'aéronautique, l'automobile, qui sont des usines qui avaient été rationalisées, comme on disait dans les années 20, c'est-à-dire où la chaîne avait été mise en place et où une population d'OS avait surgi, avec ce que ça signifiait de déqualification du travail et de surexploitation. Des usines où il y avait eu, dans les années 20, de l'initiative de la CGTU, donc proche du Parti communiste, de grandes grèves contre les phénomènes de surexploitation liés à la rationalisation.
Au taylorisme.
Oui, au taylorisme. Grève souvent perdue, grève qui avait valu aux militants d'être révoqués, grève qui quelquefois avait produit l'éclatement de la section syndicale. Il y a une répression antisyndicale qui est forte dans les années 20, mais il y a une mémoire de ces luttes. Et donc, les grèves surgissent, je pars du démarrage, elles surgissent là où des grèves ont déjà eu lieu et où il y a une mémoire de la lutte portée par des militants syndicalistes qui vont être à l'origine de ce grand mouvement qui va déborder le monde des usines rationalisées, hein, qui va s'étendre à l'ensemble du secteur privé. Hein, rappelons-le bien, en 1936, le secteur privé était très faiblement syndicalisé. C'était les bases fortes de la CGTU, de manière presque exclusive. Mais on avait des taux de syndicalisation qui étaient extrêmement faibles. Mais ce sont ces militants, certes isolés, mais combatifs, qui sont à l'initiative du mouvement.
Et on verra notamment des grèves des vendeuses du printemps, par exemple, enfin partout, ce sera une mobilisation.
C'est ça, et alors ça s'étend à des secteurs qui ne sont pas syndiqués du tout, ces fameuses vendeuses du printemps ou des galeries Lafayette, et on voit ces hommes et ces femmes qui se mettent en lutte pour la première fois sous cette forme et qui vont vers les unions locales pour demander comment on fait, comment est-ce qu'on rédige un cahier de revendications et à qui faut-il s'adresser. Et à partir de là, on a bien un relais syndical et qui s'est beaucoup exercé par l'intermédiaire des unions locales.
Oui, c'est-à-dire que les syndicats court derrière les salariés en grève.
Enfin, l'union départementale de la Seine est obligée de louer d'urgence des locaux sur le boulevard Magenta parce qu'on fait la queue pour savoir comment avancer. Oui, il y a une demande de syndicats, je dirais. Et on sait bien qu'il va y avoir une explosion des effectifs syndicaux qui amène pour la première fois de son histoire, la CGT réunifiée, à être une organisation syndicale de masse. Il y a peu de moments dans l'histoire nationale où le syndicalisme peut être stricto sensu qualifié de masse dans ce pays.
Aussitôt élus, on les pousse au cul. Après les élections, la baston, c'était le titre d'un numéro de Fakir, d'un supplément de Fakir, le journal de la bande à François Ruffin. Pourquoi ils écrivent ça, ces petits jeunes d'aujourd'hui? Aussitôt élus, on les pousse au cul. Après les élections, la baston, parce que ils connaissent l'histoire du Front populaire. Et bien sûr, on rêve de ce moment où le peuple déborde et où il obtient ce que
ce que nous savons aujourd'hui et ce dont nous profitons et nous jouissons aujourd'hui, et pas seulement, bien sûr, les congés payés, les 40 heures, etc., ce qui est énorme, mais aussi cette notion, cette conscience que le peuple peut changer les choses. Nous avons un pouvoir sur la partie non fatale du devenir. Nous avons une marge de manœuvre. Et le Front populaire nous le rappelle et initie peut-être bien cette conscience. Revenons aux acteurs, à la voix extrêmement précieuse des acteurs et des témoins enregistrés dans les années 96 exactement. Voici à nouveau Simone qui évoque les occupations.
Eh ben, mariée, ben, je suis venue travailler à Conflans-Sainte-Honorine où mon mari, qui était ajusteur, travaillait. Et là, j'ai eu du mal parce que on nous débauchait, on nous réembauchait, on nous débauchait, on nous réembauchait.
À cause de la crise.
À cause de la crise, oui. C'était en 1929. Et puis, un jour, avec une de mes camarades de femme, elle avait son mari qui travaillait chez Hispano-Suiza, à la grande usine Hispano-Suiza à Bois-Colombes, où il y avait plusieurs milliers de travailleurs. Et il avait appris que les femmes gagnaient 4 francs 10 de l'heure, alors que là, à Conflans-Sainte-Honorine, nous gagnions 2 francs 80 de l'heure.
Et c'était une usine de quoi ?
On faisait des avions et des voitures de luxe, des voitures qui étaient vraiment pour les gens très, 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 très riches, voyez-vous. Alors, en février, 1er février 1934, nous étions embauchées toutes les deux. Je me levais très tôt, à 5 heures du matin. Mais je revenais déjà très tard et bien fatiguée.
Combien d'heures vous travaillez par jour ?
Eh bien, nous travaillions à ce moment-là 9 heures, 10 heures. Et vraiment, j'étais exténuée. Et puis enfin, et j'ai commencé par faire tourneuse, mais comme ce qu'on appelait OS, c'est-à-dire ouvrière spécialisée. On travaillait aux pièces. Et mon premier travail a été de soulever des grosses pièces qui pesaient 15 kilos qu'il fallait tourner sur les tours. Alors je suis restée là pas mal de mois et on m'a sollicité pour faire de la soudo-brasure sur les sièges de soupapes d'avion, les petites soupapes. Alors s'il y avait une soufflure, la pièce, elle était nulle, elle était rejetée.
Donc vous n'étiez pas payé pour cette pièce-là ?
Non, on n'était pas payé pour cette pièce-là, et puis on se faisait encore attraper, bien entendu. Nous brûlions toutes nos blouses, enfin, et puis on travaillait 6 jours sur 7, vous imaginez ? Moi j'ai pensé des dizaines de fois, mais ça va être toute ma vie comme ça, hein ? C'est le samedi travailler, le dimanche matin il fallait faire la lessive, faire le ménage, s'occuper de l'enfant, mais c'était incroyable. Mais je ne savais pas où tourner la tête, je me couchais à 2h du matin tous les jours. Oui, il fallait faire encore mieux.
Ça, il y avait le chrono.
Il y avait les chronos, oui. Vous savez, quelquefois, quand j'étais pas là, les chronos, on allait plus vite. Hein, parce qu'il fallait faire refroidir les pièces dans de la poudre de mica. Ouais. Et alors, on les cachait au fond. Ils n'ont jamais eu l'idée de venir voir s'il y en avait en réserve.
Vous les cachiez pour de temps en temps pouvoir moins travailler ?
Voilà, c'est ça, pour un peu se reposer. C'est là qu'on chantait un petit peu.
Nous travaillons à la vie de chaque jour. Nous vivons pour notre travail. Et quand nous jouons pour un théâtre brillé, nous vivons pour la révolution.
Ah, dis donc, quand on a dit on occupe les usines. Oh, t'aurais vu la joie qu'on avait tous.
C'est vrai?
Oh, dis donc, alors c'est là qu'on s'est dit, allez, hein, faut leur donner un bon coup de main à tous nos gars-là. C'est comme ça qu'on s'est organisé. C'était jamais arrivé, hein, d'avoir une usine occupée et puis que le patron, il pouvait rien dire parce qu'on y entretenait son matériel. Ça a été bien.
C'est pour la première fois qu'on a cru que les ouvriers ont pu croire que les outils de production étaient à eux.
Ils étaient à eux. C'était à eux, l'outil de production, c'était à eux, c'était pas au patron.
Voilà. Mais ça devait vous sembler incroyable.
Non, pas moi. Non, c'était pas incroyable, c'était le résultat de nos activités. Alors, on avait créé une chanson. C'est « Regardez, regardez, les voilà, les femmes qui luttent contre la guerre. Elles sont déjà prêtes au combat pour éviter cette misère. Contre la guerre, cette maudite qui prend le sang de leurs petits, qui prend le sang de leurs petits. » Alors, il y a trois couplets, je ne me rappelle plus des autres. Alors ça, on chantait. Alors quand on chantait ça, oh, on avait un bravo. Oh, dis donc.
Vous chantiez ça où, dans les usines?
Oui, ou même dehors, à l'usine, aux portes des usines, on leur chantait ça.
Il y avait tous les hommes autour qui voilà, vous applaudissaient.
Les gens, il y avait quand même des habitants qui venaient qui nous applaudissaient.
Le bonheur nous rendra visite. La vie est à nous, 1936, le Front Populaire, deuxième partie. Merci à tous, merci à Daniel Tartakovsky. Merci aussi à Zoé Varier pour ses témoignages recueillis en 1996. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org. Et puis notre page Facebook est ouverte. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Defar Guérit, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Puyez et Grégory Salomonovitch attend vos messages.